Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième volet de notre aventure existentielle. Comme notre émission tient tant soit peu à s'adapter à l'actualité, nous vous avons aujourd'hui concocté un petit programme en lien avec l'événement du moment. Le scoop qui fait le buzz, la nouvelle tant attendue depuis bientôt un an. Et oui, je vous l'annonce en avant-première, avant AVENT bien sûr, c'est bientôt Noël.
Ouais.
Pour ne pas entrer dans les clichés, je complète en disant qu'il va bientôt falloir penser à acheter les cadeaux pour la famille et pour les amis, si ce n'est pas déjà fait. Mais que donner? Et donne-t-on vraiment seulement pour le plaisir d'offrir, comme le prônent quelques publicités bien connues? En somme, qu'est-ce que donner? Et qu'est-ce que le don? Ce sera le fil conducteur, vous l'aurez compris, de cette émission, qui explorera l'univers du don. Pauline, à qui Thomas donnera sa voix, nous donnera quant à elle un début d'aperçu de la notion. L'intégralité de son éditorial est disponible sur la page En Plus. Colline, Léo et Maria Rouca nous ont gentiment donné quelques extraits de l'interview qu'ils ont réalisée lors des JECO, des Journées de l'économie, dans le cadre de la conférence Pourquoi donne-t-on ? Marie-Claire Villeval, économiste de renom, nous donne ainsi quelques pistes pour explorer les mécanismes qui régissent l'homme économique en situation de donner. Puis nous donnerons la parole à notre équipe de chroniqueurs qui s'étoffe d'émission en émission. Annette nous donnera un point de vue allemand sur la notion de don de soi, au sens propre et concret. Anne lui donnera quant à elle la réplique pour évoquer plus longuement la place du don dans notre société. Gauthier, en contrepoint, nous donnera à réfléchir en faisant notamment rimer don avec abandon. Et Nadège, enfin, vous offrira un petit cadeau de Noël à sa façon, en prenant le terme de don sous une acception un peu différente. Mais pour commencer, un peu de nostalgie.
Donner, c'est donner et reprendre, c'est... Et reprendre, ce n'est pas simplement voler, c'est surtout anéantir, annihiler l'essence même de ce qui fait le don. Le renoncement à une chose au profit de la personne à laquelle on donne. Oui, donner, c'est renoncer, perdre, faire le deuil de ce dont on se déleste. Donner, c'est accepter qu'une partie de nous-mêmes, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, meurt. Et parfois, c'est admettre que ce soit notre être tout entier, corps et esprit, qui meurt. On donne sa vie comme on donne un livre, un vêtement, un bijou, comme on donne du temps, de l'énergie, de l'aide. La comparaison n'est pas cavalière et ne signifie pas que qui donne un œuf, donne un bœuf, donne sa vie, non. La comparaison se fonde sur l'analyse d'un processus et de ses conséquences. Donner est et reste un acte qui met en présence deux instances. Individu ou non, personne morale ou physique, peu importe, deux instances donc. Celui qui donne et celui qui reçoit. Entre deux, un tiers, un lien, ce qui est donné. Mais, une fois l'acte de donner accompli, que se passe-t-il? Le calcul est simple. Celui qui a donné ne possède plus ce qui a été donné, qui appartient désormais à celui qui recevait. On le voit, le lien est rompu dans la nouvelle prise de possession. Celui qui a reçu tient le don bien en main, celui qui a donné a les mains vides et surtout, entre les deux, plus rien. Le don, donc, perte pour l'un, gain pour l'autre, nécessairement. Conjugué au présent, donner est une relation, au passé, c'est une rupture. Le don, une solitude. Mais à y regarder de plus près, l'acte de donner apparaît pourtant à contrario comme l'expression d'un refus d'isolement, voire comme un instinct grégaire, en tout cas, une volonté d'intégration à la communauté des hommes. Pensons à des termes voisins du substantif « don » qui, sans s'y superposer, s'y associent. Pensons ainsi à « cadeau »,« présent », »,« offrande ». Il semble bien, en effet, qu'à leur manière, ce soient tous des dons. J'offre des cadeaux à Noël, Marie-Ève, tu en parlais à l'instant, à mes enfants, des présents à mes amis pour leur anniversaire. Je fais une offrande à Dieu. Mais en quoi, me direz-vous, cela est-il une manière d'entrer en contact, de nouer une relation avec autrui? En quoi cela témoigne-t-il de mon appartenance à un groupe humain ou à l'humanité en soi? La réponse réside peut-être dans la dimension symbolique de ces formes de dons. Les cadeaux, les présents, les offrandes ne sont pas simplement des objets que l'on donne à l'autre. Ils sont aussi, sinon surtout, porteur d'un sens qui a partie liée avec les conscients et inconscients tréfonds de l'individu. Ses amours et ses haines, ses principes et ses croyances, ses souvenirs et son devenir. Comment, autrement, aimer cette breloque ou ce pull hideux que notre mère, aujourd'hui décédée, nous a offert il y a de cela 20 ans. Les cadeaux, les présents, les offrandes sont aussi les vecteurs d'une histoire, d'une culture, d'une spiritualité. L'objet, ici, est le support concret de principes abstraits. Il est, en fait, un moment. Il est du temps. Tant de célébrations, tant de recueillement, en tous les cas, un hommage et une communion, un rituel. Il témoigne en effet d'une ou plusieurs valeurs, qui peuvent être aussi bien affectives, sociales que morales. Ces valeurs, ce sont précisément ce que ces hommes qui donnent et qui reçoivent partagent. Le don, donc, suppose une sociabilité première, sociabilité humaine fondamentale à l'origine d'un fond culturel commun à tous les hommes ou à un groupe d'hommes. Sociabilité aussi à l'origine de toutes les histoires familiales, prérogatives des membres d'une même famille, le don, un patrimoine. Ainsi, le don n'est pas, à proprement parler, non, qu'on se place du point de vue de celui qui a reçu ou de celui qui a donné, qu'on se situe dans le présent de l'acte ou dans l'éternité de la possession, le don, toujours, représente. Il rappelle à notre bon souvenir la personne qui a été si généreuse. Il prolonge le sacré du rituel dans le quotidien prosaïque. Il nous fait revivre l'instant où le don est passé de main en main. Le don ne saurait plus être rupture. Via la mémoire, il actualise sans cesse le lien premier. Un morceau d'éternité. Donner et recevoir, c'est s'unir pour la vie.
Merci Pauline, Thomas Pauline. Et nous passons tout de suite à l'interview Existe Essentiel du jour, consacrée à l'analyse des expériences de l'homme économique en situation de données, avec Marie-Claire Villeval, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice du GATT, le groupe d'analyse et de théorie économique de Lyon-Saint-Étienne, et qui est aussi surtout spécialiste dans le domaine de l'économie comportementale. Et elle est au micro de Colline, Léo et Marie Arouca.
Je voudrais savoir enfin, quels étaient les ressorts économiques individuels, plus précisément, donc des comportements généreux.
Alors, déjà, donner, ce n'est pas un acte anti-économique. Donc, il y a un premier ressort qui est le prix du don, ce que vous coûte votre don. Et on sait très bien que eh bien, si ce don, si ce transfert monétaire est plus coûteux pour vous, vous donnerez moins. Donc, ça répond à une logique marchande tout à fait classique, hein. Un deuxième ressort, c'est l'efficacité du don. Si, pour une certaine somme d'argent, le bénéficiaire final reçoit davantage, eh bien, vous serez plus prêt à donner. Donc, il y a la question de préoccupation d'efficacité qui compte. Donc, c'est important pour les associations. Il faut que les associations aient une certaine efficacité.
Vis-à-vis du coût du don, est-ce que vous pensez que la crise financière a freiné les dons ?
Elle les a surtout réorientés. C'est-à-dire qu'il semblerait que les gens ne donnent pas nécessairement moins, mais ils donnent à des causes qui leur paraissent plus proches. C'est-à-dire qu'on va peut-être donner moins à des causes humanitaires tiers-mondistes et donner plus pour des associations qui s'occupent de donner à manger à des gens qui, en France, ont faim. Il y a un recentrage des préoccupations et il y a un effet de la crise sur les catégories de revenus qui donnent. Et ceux qui donnent moins, paradoxalement, sont ceux qui gagnent le plus, vraiment les catégories supérieures, mais aussi les catégories inférieures moyennes. Les deux catégories qui ont baissé leurs dons récemment.
Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre travail ?
Alors, je vais essayer d'être bref. L'idée de l'économie comportementale, c'est d'introduire dans le raisonnement économique et dans les modèles économiques des résultats qui nous viennent de la psychologie. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que l'individu est un homo economicus parfaitement rationnel qui cherche uniquement à maximiser ses gains, et bien on va intégrer le fait que la plupart des individus ont des ressources cognitives limitées, ont des biais de perception, ont des sources de motivation qui avaient tendance à être un peu ignorées jusque-là, par exemple le rôle des interactions sociales, l'influence des pairs sur les choix individuels, etc. Donc on va... par cette démarche-là, intégrer un être plus social, en quelque sorte, et on va pouvoir appliquer cette démarche à des sujets très différents, qu'il s'agisse de dons, d'évasion fiscale ou de toute autre sorte de sujet.
Aux États-Unis, j'ai vu qu'ils voulaient rémunérer les dons de sang afin que les gens donnent plus. Et finalement, vu que les gens étaient rémunérés pour le faire, beaucoup, beaucoup moins de gens l'ont fait. Est-ce qu'on peut noter que le don est aussi quelque chose de moral ?
Absolument.
D'accord.
Ça, je pense que c'est une source très très importante. Une partie des raisons pour lesquelles on donne, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'appelais ça l'altruisme. Si on vous donne de l'argent pour donner votre sang, c'est plus de l'altruisme. Et vous montrez plus aux autres que vous êtes altruiste en allant donner votre sang. Donc il y a aussi une dimension importante dans les choix de dons, c'est la pression sociale, l'image qu'on donne aux autres quand on donne. Il y a des études qu'on a faites en neuroéconomie, hein, où donc on regarde ce qui se passe dans le cerveau quand une personne prend une décision économique. Eh bien, on voit que les zones du cerveau qui s'activent quand on fait un don, plus exactement quand on vous force à faire un don de type impôt, sont les mêmes zones que les zones activées quand on reçoit des récompenses. Donc ça, c'est un signe d'altruisme pur, c'est-à-dire qu'on vous prend de l'argent, mais vous savez que c'est pour une bonne cause, et donc ça active le réseau qui traite les récompenses. Si c'est vous qui décidez de faire ce don, ces mêmes zones sont activées, elles le sont encore plus. Donc c'est la différence entre altruisme pur et impur.
Et donc en fait, il n'y a pas une limite très claire entre don et solidarité ? Parce que finalement on a envie de dire qu'un don est... je donne de l'argent à, par exemple, un SDF, c'est un don. Je soutiens une cause, c'est un don. Mais si je suis solidaire, je pense également à la possibilité de devenir moi-même dépendant du système de solidarité.
Alors ça, c'est une question très intéressante, en particulier quand on s'intéresse aux dons d'organes. Parce que là, on a un exemple type où on manque de donneurs. Et on se pose la question de savoir quelle est la bonne politique à mettre en œuvre pour augmenter le nombre de donneurs. Alors vous savez que selon les pays, on utilise soit le opt-in ou opt-out. Ça veut dire quoi ? Opt-out, ça veut dire que, comme en France, vous êtes considéré comme volontaire pour donner vos organes en cas de décès. Et par contre, si vous souhaitez ne pas donner vos organes, vous devez exprimer votre désaccord. Donc c'est opt-out. Dans d'autres pays, c'est opt-in, c'est-à-dire que vous devez déclarer que vous êtes volontaire en cas de décès pour qu'on prélève vos organes. Donc le problème, c'est quelle est la meilleure des politiques, hein. Alors, une des façons qui encourage les dons d'organes, c'est le système d'opt-out, c'est-à-dire, par défaut, vous êtes donneur, volontaire, mais en plus de ça, on introduit des listes de priorité. C'est-à-dire que, comme il y a des pénuries de dons, enfin, de pénuries d'organes, si vous-même devenez victime et que vous n'êtes pas sorti volontairement du système de dons, vous êtes traité prioritairement pour recevoir l'organe de quelqu'un qui est décédé et qui va pouvoir vous permettre de guérir. Et donc ça, on est bien dans ce que vous dites. Peut-être que dans ce cas-là, si on met en place ce type de politique, on joue un peu sur la corde sensible. Je donne par solidarité, c'est-à-dire parce que je pense qu'un jour, peut-être, j'en aurai besoin moi-même.
Merci beaucoup, Marie-Claire Villeval, d'avoir accepté donc, de nous donner du temps pour répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle que vous pouvez trouver l'interview complète sur le site de Transistor, catégorie Actu, rubrique JECO 2012. Mais restons dans les expériences sur l'homme et passons maintenant de l'autre côté du Rhin, dans le domaine de la médecine, avec le professeur Eichinger qui va nous parler du don de soi.
La médecine, comme l'amour d'ailleurs, est le lieu du don, car le corps est un don. Il nous a été donné sans aucun coût et il est à nous. Le corps est donc une matière à donner aux autres, intégralement ou partiellement. On se donne à son amant ou, moins romantique, on peut se donner à la science après sa mort. On donne du sang. On peut, après ou avant sa mort, donner un organe. Mais attention, même si tout est gratuit, on ne peut pas les prendre. Le volontariat est essentiel. Si ce n'est pas le cas, le crime commence. Le viol, le vol des organes, et sur une base plus mythique, le vampirisme. Idéalement, le receveur est reconnaissant, mais il s'agit plutôt d'une reconnaissance tout à fait intérieure, il n'y a pas la contrainte d'une contre-don visible. Quant au donneur, s'il veut bien que son don soit utile à une cause, il doit avoir confiance dans le fait qu'on utilise le don soigneusement, avec responsabilité. Il prend même un risque de confiance. En Angleterre, les fumeurs ont moins de chances d'avoir une greffe quand on considère qu'ils sont moins responsables. Apparemment, on est libre de nuire à son propre corps, mais pas aux organes des autres, même après la mort. En Allemagne, un scandale autour des dons d'organes a ébranlé le pays, rendant les gens moins prêts à donner des organes. Un chirurgien avait manipulé les données de certains malades du foie pour qu'ils soient prioritaires dans la liste d'attente. Et cette affaire arrive au mauvais moment, car une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur pour encourager les Allemands à donner leurs organes après leur mort. Or, le scandale a provoqué un effet fatal. Plusieurs donneurs potentiels ont rendu leur carte de donneur. On a perdu la confiance en un système qui devait être irréprochable. Problème de nombre de dons volontaires donc, outre-Rhin et ailleurs. Et si l'on vendait ce qu'on donne normalement? Est-ce qu'on peut vendre son corps? L'idée est là, mais elle fait toujours polémique. La prostitution, le trafic des organes, tout cela se passe à la limite de la légalité. Un chirurgien anglais a demandé la vente légale des organes, surtout des reins, dans son pays. Ses arguments: le donneur est la seule personne à ne pas profiter d'une transplantation. Et cela peut freiner le commerce d'organes illicites. En plus, ce sera une opération sans risque, sans conséquence. Bon, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a bien des conséquences. L'homme devient une marchandise, il se capitalise. Et comme je l'ai dit avant, ce n'est pas exactement l'idée d'un don. En plus, il y a toujours des risques pour la santé. Dans la même veine, le don du sang, un sujet moins grave quand même. Cela se fait en quelques minutes, le sang va se renouveler et on peut sauver la vie d'une autre personne. Petit bémol ici aussi. On donne son sang et dans beaucoup de pays, l'organisation le vend. Ah, encore, cela pas l'idée d'un don. Conclusion, il n'y a pas de frais don dans le monde médical, mais n'a pas d'alternative non plus. Espérons que cela fonctionne mieux dans les relations amoureuses, mais renonçons à y réfléchir.
Ou plutôt, laissons à nos auditeurs le soin d'y réfléchir, parce que je suis sûre que chacun aura sa petite idée sur le sujet. Et merci beaucoup, Madame Eichinger. Et pour rester dans le sujet, voici de quoi compléter ce que vous venez de dire et de quoi aussi titiller vos âmes généreuses, chers auditeurs.
Chaque jour, c'est plus de 10 000 dons qu'il nous faut pour répondre aux besoins des malades. Aujourd'hui, rien ne peut le remplacer. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout le monde.
Eh oui, nous avons besoin de tout le monde. Les appels aux dons qui sollicitent notre générosité et provoquent même notre solidarité nous rappellent que nous ne vivons pas tout seuls. Et Anne, je crois que tu en sais quelque chose.
Par opposition avec d'autres formes d'échange, et bien sûr notamment avec l'échange marchand, le don nous apparaît comme un acte désintéressé et généreux, c'est-à-dire au fond comme l'exact opposé de la relation mercantile fondée, elle, sur le calcul froid et mesquin de ses intérêts. Si, comme le dit l'adage, quand on donne, on ne compte pas, c'est bien que le don serait cet espace préservé, d'où le capitalisme néolibéral serait exclu et où la générosité désintéressée triompherait. Pourtant, cette conception intégralement positive du don passe sous silence l'ambivalence fondamentale qui est inscrite au cœur même de l'acte de donner. Et oui, le don instaure de fait une relation ambivalente entre le donateur et le donataire. Dans un même mouvement, elle les rapproche, le don est un partage, et les éloigne, le don instaure aussi une dépendance du donataire à l'égard du donateur. L'un devient l'obligé de l'autre. Celui qui doit quelque chose à l'autre se trouve de fait dans un état d'infériorité, de vulnérabilité, voire de soumission. Et dans certaines sociétés, comme à Rome, l'incapacité de rendre à celui qui vous avait donné pouvait aller jusqu'à vous faire tomber dans l'esclavage et devenir ainsi la propriété de l'autre. Et si dans notre société, on vient d'en parler, le don d'organes est anonyme, c'est sans doute pour éviter qu'un homme doive la vie à un autre. On le voit, le don instaure une hiérarchie, une dépendance, dont le donataire ne se délivre que lorsqu'il a rendu au donateur à la mesure de ce qu'il lui avait donné. Dans ces conditions, on comprend que des sociétés aient intégré le don dans une dynamique en deux temps. Le don et le contre-don, selon l'expression de Marcel Mauss dans son essai sur le don. Partant du constat de l'importance du don dans certaines sociétés archaïques, Mauss y décrit le fonctionnement de plusieurs de ces sociétés, organisées autour de l'obligation de donner, de recevoir et de rendre. Alors ce qui interroge Mauss, c'est précisément que l'acte du don, présenté comme spontané et choisi, soit en réalité obligatoire et implicitement imposé aux individus. Il explique cet apparent paradoxe en montrant que les cérémonies très rituelles où les individus se donnent et se rendent des objets, et ce sont la plupart du temps des objets sacrés, sont en réalité une façon de produire du lien social et constituent ainsi un ferment de la cohésion de la communauté. Pour en revenir à Mauss, celui-ci repère dans les différentes sociétés primitives qu'il étudie deux types de dons. D'une part, le don non antagoniste, qui s'apparente au partage et où les partenaires de l'échange se donnent et se rendent des objets de valeur équivalente, et d'autre part, le don antagoniste, qui s'apparente à la rivalité et où les partenaires luttent à celui qui donnera le plus et qui, ce faisant, écrasera l'autre sous ses dons, remportera la compétition et avec elle la place de chef dans la société. La première forme de don, le don non antagoniste donc, a pour but de créer un lien entre les individus et de matérialiser ainsi le tissu social. La seconde forme de don, le don antagoniste, a pour but d'établir une hiérarchie, puisque celui qui donne le plus devient le chef, et de fabriquer ainsi de la structure sociale. On peut faire le parallèle, d'une certaine façon, avec les pratiques d'évergétisme et de libéralité aristocratique, qui ont pour but de rendre manifeste, aux yeux de tous, une domination et une hiérarchie. Ces deux formes de dons repérées par Mauss, le don agonistique et le don non agonistique, témoignent bien de l'ambivalente inscrite dans l'acte même de donner. Elles témoignent aussi du rôle structurant que peut avoir le don dans une organisation sociale. D'ailleurs, même dans les sociétés où le don n'est pas, à proprement parler, le ferment de la cohésion de la communauté, celui-ci a souvent une fonction sociale, même si c'est à un niveau moins fondamental et moins structurel. Alors, c'est notamment le cas de l'Occident chrétien médiéval ou dans les sociétés musulmanes, avec la place qui occupe l'aumône. Rappelons que dans le christianisme, la charité est une des trois vertus théologales et que l'aumône est le troisième des cinq piliers de l'islam. Ces deux types de sociétés sont organisées autour d'une religion, et le don aux pauvres y apparaît dans les deux cas comme un moyen de compenser les inégalités sociales qui existent de fait entre les individus. Le don y apparaît comme une force qui atténue les inégalités sans pour autant ébranler les hiérarchies sociales, puisque, ici comme ailleurs, le don fait du donataire l'obligé de son donateur, lui imposant, au minimum, reconnaissance et gratitude, et parfois des services bien plus substantiels. Et tout cela avec, bien souvent, en prime, pour le donateur, une bonne conscience, achetée pour pas trop cher. C'est d'ailleurs pourquoi la pensée révolutionnaire, dont le but est d'abolir les inégalités sociales, n'a eu de cesse de dénoncer la charité comme pratique conservatrice, maintenant les inégalités en place, sous couvert de les combattre. Mais si le don, sous la forme de l'aumône, a une telle place dans des sociétés organisées autour d'une religion, ce n'est peut-être pas simplement en vertu de la force conservatrice du don charitable. Peut-être le don a-t-il fondamentalement à voir avec la religion. Maurice Godelier, dans L'énigme du don, montre que le principe religieux se fonde sur l'idée que les hommes sont en dette par rapport aux dieux, qui leur ont tout donné, à commencer par la vie. Cette dette a été portée à un degré inégalé par le christianisme, puisque Dieu a non seulement donné leur vie aux hommes, mais aussi celle de son propre fils, c'est-à-dire, en vertu de la Sainte Trinité, la sienne, pour racheter ses hommes. Les hommes sont donc redevables au-delà de toute mesure, et ils se doivent au moins de rendre à leur échelle en donnant l'aumône aux pauvres et en faisant des offrandes ou des sacrifices à Dieu ou aux dieux, selon que l'on est dans un système monothéiste ou polythéiste. Ainsi, cet arrière-plan religieux au don présent dans la plupart des sociétés peut nous aider à comprendre les métamorphoses du don dans nos sociétés occidentales, qui ont connu, selon l'expression de Marcel Gaucher, une sortie du religieux. Comme toutes les sociétés, notre société est fondée sur l'échange entre les individus comme moyen de cohésion sociale. Mais la forme d'échange qui remplit ce rôle n'est pas le don. C'est bien plutôt, chez nous, l'échange marchand, le contrat économique. Pour cette raison, le don n'est plus pour nous un moyen nécessaire pour produire et reproduire de la structure sociale. Le don n'existe plus comme producteur fondamental du tissu social. Il peut bien sûr toujours produire des liens entre des parents, des amis, des collègues, mais il est devenu avant tout subjectif, personnel, individuel. En ce sens, le don relève d'une logique indépendante de celle du marché. On peut même y voir une forme de résistance, et c'est sans doute pourquoi, comme je le disais au début, le don nous apparaît comme l'archétype de l'acte désintéressé, préservé de la logique capitaliste où tout se paie, tout se monnaie, tout se calcule. Mais parallèlement à ce repli sur l'espace privé, le don tend à retrouver dans notre société une fonction sociale, mais sous une autre forme. En témoigne le grand essor des organisations caritatives, qui signent le retour de la charité, mais cette fois plus sur fond d'obligations religieuses. La cause de tout cela est à chercher dans les métamorphoses de l'État. L'État tend aujourd'hui à se retirer de ses fonctions, renonçant à son rôle de redistribution des richesses et laissant ainsi toute liberté au pouvoir économique. Dans ce contexte, les individus doivent à nouveau recourir aux dons privés pour faire face aux catastrophes économiques, écologiques, sanitaires qui sévissent aux quatre coins de la planète. Cette nouvelle configuration du don est relayée en grande pompe par les médias qui nous invitent sans cesse à « envoyer nos dons » pour la catastrophe humanitaire à Tahiti, pour la famine au Biafra ou la lutte contre le sida. La charité s'organise désormais à l'échelle planétaire et il ne suffit plus de donner aux mendiants du coin de la rue. Le monde entier est à sauver et il n'y a que vous pour vous y coller. Alors n'hésitez plus, donnez. Vous n'y gagnerez pas le paradis, Dieu est mort, peut-être simplement la très passagère fierté d'avoir offert des cahiers à un enfant analphabète du Soudan. Mais c'est toujours mieux que rien.
Merci Anne pour cette chronique convaincue et convaincante. Et quand on pense donc aux dons, on pense aussi, bien sûr tu l'as souligné, aux dons que l'on peut faire aussi aux aumônes et même aux mendiants. Et je sais bien que ce vocabulaire est un peu connoté, certes, mais ne sommes-nous pas tous quelque part un peu mendiants ?
Toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante pour vous connaître chaque jour. Donnez, 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 donnez.
Plus sérieusement, et nous venons de le voir à l'instant, donner, c'est être pris dans un système d'échange permanent, de dons et de contre-dons, que ce soit avec l'autre ou avec l'autre avec un grand A, avec Dieu. Et je laisse à présent la parole à Gauthier, qui va nous dévoiler la face cachée du don, don et abandon.
Tout don est un danger. Tout don implique un risque, parce que tout don éprouve notre capacité à recevoir et à rendre. Chaque offrande est une menace, parce que dans la mesure même de son désintéressement initial, elle place le donateur et le bénéficiaire face à la possibilité, à la tentation de l'ingratitude. Recevant un présent, nous pouvons nous permettre ce luxe d'être ingrat, de refuser ce don ou de ne pas le rendre. Parce qu'il échappe à toute norme, à toute loi, le don est toujours périlleux. Donnant, nous sommes frustrés d'un bien qui nous échappe sans retour. Recevant, nous sommes fragilisés parce que nous devenons débiteurs, redevables, non pas par contraint, c'est-à-dire par contrainte et contrôle, mais par obligation, c'est-à-dire par honneur. Le don oblige, en effet, comme jadis la noblesse. Le don oblige précisément dans la mesure où il ne nous contraint pas. Nous ne sommes liés par la pression d'aucune coercition légale. Aucun pouvoir ne peut s'exercer ni sur la manière dont nous recevons le don qui nous est fait, ni sur la manière dont nous y répondons. C'est une différence essentielle, ce me semble, avec la culture du fameux potlatch, analysé par Marcel Mauss dans son essai sur le don. Alors que l'échange non marchand du potlatch implique l'obligation de recevoir et de rendre dignement, faute d'infamie sociale, le don, du moins dans la tradition chrétienne, est tout sauf un troc. On ne donne pas un truc à quelqu'un pour recevoir de lui un autre truc, si possible plus clinquant, mais parce qu'on estime que ce truc gagne à être non pas seulement partagé, mais transmis, livré, confié à l'autre. C'est pourquoi le don est toujours clandestin. Il est l'envers du vol, l'inverse du recel, et non pas son contraire, parce que lui aussi, le don, exige une effraction, le franchissement d'une clôture, celle de notre intérêt, celle de notre pudeur, celle enfin de la crainte que nous éprouvons face à l'ingratitude. Donner, c'est alors forcer la serrure de l'égotisme ravi, faire sauter les verrous de l'autosatisfaction où nous séquestre notre vanité dédaigneuse. On prend d'assaut la citadelle endormie, on fait sonner les trompettes de Jéricho. Autrement dit, on donne un cadeau comme on vole un baiser. Sinon, ce n'est plus du don, mais une sorte de pub. C'est exactement ce dont témoigne, tristement, l'évolution commerciale de Noël. De l'épiphanie de la nativité à la débauche des fêtes de fin d'année, le cadeau est devenu un dû, c'est-à-dire le contraire d'un don. On force les enfants à faire des listes de cadeaux deux mois à l'avance, on offre des chèques cadeaux pour empêcher toute implication trop personnelle dans l'offrande, et on arrive ainsi à un cadeau sans âme, au paradoxe d'un cadeau sans don, puisque sans risque, sans surprise et sans confiance. Or, le don véritable est clandestin, il ne saurait advenir que par effraction. En donnant, sans rien attendre en retour, peut-être qu'un tout petit peu de reconnaissance, nous nous exilons des surfaces planes du marché. Hors norme, le don l'est parce qu'il bouscule les conditions de la concurrence pure et parfaite, subvertit les règles de l'offre et de la demande, rature les équations tracées par quelque invisible main. Donner dans un authentique esprit d'abandon, c'est en effet outrepasser la règle de la réciprocité obligatoire, en faire fi pour faire face à cette même possibilité de l'ingratitude. Donner, c'est s'expulser soi-même, volontairement, de la relation symétrique du donnant-donnant. Non par refus du donateur de recevoir à son tour, non par refus que le bénéficiaire de notre offrande nous offre en retour quelque chose, mais par refus d'enfermer l'autre dans un échange strictement parallèle et finalement contraint. Grain de sable se jouant des mécanismes huilés de l'économie, le don déroge au moins triplement à cette règle économique. Il n'est soumis à aucune commande, à aucun échange, à aucun prix. Ainsi, le don véritable ne saurait-il se jouer comme un gagne-terrain par lequel chacun chercherait à imposer dans un épuisant surenchérissement la supériorité de sa puissance donatrice. Le don ne saurait être une forme non plus de gagne-pain, moyen détourné d'obtenir de l'autre plus que ce qu'on lui a donné en cessant au moment opportun l'aller-retour des biens. Qui ne peut donner plus qu'il ne reçoit commence à tomber en pourriture, écrit Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune. Le don ne souffre aucune publicité. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, intime l'évangile. C'est là aussi que le don blesse. Il est trois fois clandestin, par surprise, par sacrilège et par secret. La préméditation menace la pureté du don. Pour donner, il faut prendre l'autre au dépourvu, à l'improviste. À la limite, écrit Derrida dans « Donner le temps », le don, comme don, devrait ne pas apparaître comme don, ni au donataire, ni au donateur. Si l'autre le perçoit, s'il le garde comme don, le don s'annule. Mais celui qui donne ne doit pas le voir ou le savoir non plus, sans quoi il commence, dès le seuil, dès qu'il a l'intention de donner, à se payer d'une reconnaissance symbolique, à se féliciter, à s'approuver, à se rendre symboliquement la valeur de ce qu'il croit avoir donné. L'Évangile le dit, une fois de plus, de manière plus directe. « Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi, ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. » Imprévisible, insoumis et hors la loi, le don blasphème ainsi chacun des commandements publicitaires, propagande sournoise qui nous force à la fois à posséder le standard, sous peine d'être bizarre, et à posséder l'unique, sous peine d'être dérisoire. Ni banal, ni bancal, ni trivial, ni fantasque, il nous faut être quelqu'un sans devenir quelconque, pourvu que l'on ne dépende de nul autre pouvoir que celui de l'achat. À cette injonction publicitaire duplice, le don offre la réponse la plus désarmante. Tu ne vaux pas par ce que tu gagnes, mais par ce que tu perds, par ce que tu es prêt à sacrifier pour le bien des autres, gratuitement et sans arrière-pensée. Le don implique ainsi un détachement conscient. Le don est un consentement libre à une perte objective, un abandon. On ne donne pas à charge de revanche pour que l'autre nous rende la monnaie de notre pièce, on donne pour se désencombrer et enrichir l'autre moins du bien qu'on lui transmet que de l'amour qu'on lui exprime. Enfant de bohème, le don radical n'obéit à nulle loi, nulle raison, nul intérêt, nul mécanisme identifiable. Que nous donnions sur notre superflu ou sur notre indigence, que nous donnions notre temps, notre sang, notre argent ou notre vie, tout don reste une grâce, un mystère, une amoureuse infraction. Si on donne les choses et les rend, conclut Mauss, c'est parce qu'on se donne et se rend des respects, nous disons encore des politesses, mais aussi c'est qu'on se donne en donnant, et si on se donne, c'est qu'on se doit, soi et son bien, aux autres.
Merci Gauthier.
Alors Nadège, peux-tu nous parler de Justin Bieber? Quel est le point commun entre Justin Bieber et Jean-Sébastien Bach?
Bah déjà pas leur musique, ça je pense que tout le monde s'en sera rendu compte. Mais en revanche, c'est que l'un et l'autre ont un don, même si leur don ne s'exprime pas tout à fait de la même manière. Ils sont tous deux doués dans le domaine musical. Justin Bieber, on le sait depuis son reportage « Never Say Never », qu'il est doué depuis qu'il a l'âge de 3 à 4 ans. Il s'est mis aux percussions dès qu'il avait 3 ans. Il jouait de la trompette, de la guitare. Enfin, c'est un peu l'homme orchestre, hein, Justin Bieber. Et c'est grâce à YouTube qu'il s'est fait connaître à 13 ans. Après, Jean-Sébastien Bach, c'est assez différent. Mais lui aussi, il a un véritable don pour la musique, puisque le répertoire de ses œuvres est vraiment prolifique. Mais l'un et l'autre ont un don pour la musique.
Et alors, c'est quoi être doué pour la musique? Être vraiment doué. Je parle pas de ceux qui sont en école de musique et qui pianotent toutes les semaines parce qu'ils sont obligés et parce qu'ils ont un cours.
Ah, être doué pour la musique, c'est faire de la musique sa vie. C'est-à-dire sentir, avoir de l'intuition, et cela dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, avoir un don pour la musique, c'est comme avoir une vocation. Enfin, c'est à peu près de cet ordre-là, vous voyez. On voit très bien la différence entre l'écolier qui s'applique bien à reproduire les notes et celui qui va avoir une mémoire exceptionnelle, qui va retenir immédiatement, reconnaître les techniques instrumentales, etc. Bon, après, la pratique joue beaucoup, mais dans le don, ça rejoint l'idée du génie, en fait. C'est l'idée qu'il y a une intuition préalable qui fait qu'il y a une précocité, une maturité qui s'installe dans le jeu, dans la saisie des notes et dans la reproduction des partitions. Mozart, il était capable d'aller à un seul concert et après de le retranscrire sur sa partition. De même, Gustave Doré, quand il allait, bon ça c'est dans le domaine pictural, quand il allait dans une cathédrale, après il ressortait la cathédrale, il était capable de la redessiner entièrement.
Donc ça finalement ce sont les surdoués.
Oui,
après... Et nous, alors, par rapport à eux, comment est-ce qu'on se positionne quand on est juste un peu doué?
Quand on est juste un peu doué... c'est pareil, c'est toujours sur le plan de l'intuition, mais pas de manière aussi développée, je pense. Alors que quelqu'un qui a un don, c'est à la fois un cadeau, en somme, et un fardeau, parce que on est presque prisonnier de la spécialité dans laquelle on est pris. Alors que quelqu'un qui est doué va être capable d'être à peu près bon dans les autres domaines, même s'il a un point d'excellence. Alors que le surdoué, celui qui est au maximum dans une des spécialités, que ce soit le football, la musique, ou quelque autre domaine que ce soit, va au contraire, avoir peut-être des problèmes justement pour s'adapter à d'autres domaines que le sien, que celui dont il est spécialiste. Et ça peut donner... ça peut être source de problèmes, en fait.
C'est comme Superman qui arrive jamais à avoir une relation stable avec sa copine.
Oui, par exemple, les super-héros sont super doués pour sauver le monde, mais très, très mauvais en ce qui concerne les relations humaines, parfois. Parce qu'ils sont au-dessus du monde, au-dessus des autres, et la relation, le partage de leurs dons peut s'avérer parfois très compliqué.
Mais d'un autre côté, on en a besoin, non ?
Oui, bien sûr, on a besoin d'une fraction de gens qui sont hyper spécialistes d'un domaine. Par exemple, on a besoin de Justin Bieber pour faire avancer le monde, tourner le monde. On a besoin de Jean-Sébastien Bach, d'Einstein. Alors qu'Einstein, tout le monde connaît un peu son histoire. Il a eu beaucoup de mal à parler. Il a réussi à émettre des sons bien formés seulement à partir de 4 ans. Le personnage de fiction auquel je pense aussi, c'est Géo Trouve-Tout. C'est l'inventeur génial qui a été inventé par Disney, mais qui est incapable de faire ses lacets. Donc, oui, nous avons besoin de ces gens-là, même si parfois des problèmes d'inadaptation peuvent se rencontrer. Après, il y a des contre-exemples. Jean-Sébastien Bach, il avait 8 enfants, il était très équilibré, il se couchait tôt, se levait tôt, et il n'y avait aucun problème. Après, le génie et l'artiste peut rejoindre le motif de l'artiste maudit.
S'ils n'ont pas beaucoup de contacts avec les autres, ils peuvent peut-être avoir des contacts entre eux, alors, et se comprendre mieux entre surdoués, non ?
Oui, d'ailleurs, il y a des associations qui sont faites pour ça. Là, je parle plutôt... la surdouance, comme on le dit, comme le disent les spécialistes, c'est assez affreux comme terme, hein, se mesure en unité de QI. C'est-à-dire, on fait une série de tests, on peut le faire à tout âge, d'ailleurs, et les enfants peuvent commencer à le faire, et on est classé, il y a une barre, et quand on dépasse 130, c'est vraiment que c'est exceptionnel. Et toutes les personnes qui ont un résultat, un score de ce type, peuvent se regrouper dans une association qui s'appelle la MENSA, M-E-N-S-A, et qui se trouve à l'échelle mondiale, dans tous les pays. Et il y a régulièrement des conventions qui sont organisées, qui se retrouvent pour des concerts ou pour faire des mathématiques. Enfin, c'est un peu un autre monde.
Il y a une sorte d'émulation entre eux, alors.
Oui, il y a un peu aussi l'idée que moi, j'ai obtenu un score qui est supérieur au tien. Alors parfois, ça peut donner des gens qui sont très doués, qui peuvent se placer sur un niveau de compétition qui est totalement dérisoire, au fond. C'est très drôle.
Comme quoi, parfois, il vaut mieux être modestement doué et oui, rester les pieds sur terre.
Voilà, aurea mediocritas, une position moyenne, ça vaut de l'or, comme dirait Horace.
Et comme dirait Maître Yoda aussi.
Ah, Maître Yoda, je sais pas trop où il se positionne par rapport à ça, mais oui, lui, c'est plutôt les passions qu'il rejette. Hein. Après, être doué, un padawan qui est doué comme Anakin, ça, il va être content. Même si Anakin Skywalker, c'est aussi un exemple d'un surdoué qui tourne très mal. De quelqu'un qui a un taux de midi-chlorien dans son corps qui fait qu'il est capable de piloter un vaisseau à toute vitesse, mais il tourne mal, il se tourne du côté de la force. C'est comme Alcibiade. Alcibiade, le disciple super doué de Socrate, qui va avoir un destin tragique.
La suite au prochain numéro, tu nous raconteras le destin d'Alcibiade.
Avec plaisir, merci.
Merci.
Et comme le dit Michel Serre, ce sont les génies qui engendrent l'histoire, et non l'histoire qui engendre les génies. À méditer.
Mais Géo, il doit y avoir un moyen de recoller les deux îles ensemble.
Ah, désolé, monsieur Picsou, je ne peux pas recoller deux îles sans bouleverser le monde. Et alors, imaginez un peu les conséquences si je remodelais les continents. Quelle panique!
Est-ce que vous pouvez construire une machine qui me conduirait dans le passé juste avant cette explosion?
Eh bien, en fait, monsieur Picsou... Je l'ai baptisé le Millennium, qu'en dites-vous?
Mais voyons, Géo, qui pourrait piloter cet engin? Un octopus?
Eh bien, voyez-vous, monsieur Picsou, je ne connais qu'un pilote, alors quand je l'ai décidé...
Non, Géo, ne me dites rien.
Flagada Jones!
Je vous ai demandé de ne rien me dire.
Je fais un merci général à Pauline, Thomas, Thomas-Pauline, Annette, Anne et Gauthier pour leur don de la parole et de la transmission, à Marie-Claire Villeval pour avoir donné de son temps et pour son don d'expliquer les choses avec clarté, à Colline, Léo et Marie Arouca pour leur don d'organisation et de répartie dans l'art de l'interview, à Caroline et Thomas pour leurs dons musicaux et leur générosité, et enfin à Xavier et Fabien la technique pour leurs dons techniques en l'occurrence et aussi leur trésor de patience. Merci à vous, chers auditeurs, de vous être donné la peine d'écouter cette émission. Et surtout, pour reprendre l'expression d'un confrère de France Inter, ne lâchez rien, car n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul.